L'accent des autres vous accompagne comme chaque semaine. Bienvenue, voici l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours vue par les médias francophones publics. RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Bleu et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui avec une grève en Suisse parce que oui, il y en a aussi, Nadine Altiner.
Et oui, dans le pays de la paix du travail, il y a aussi des conflits. Plusieurs secteurs d'activité menacent de débrayer cet automne pour obtenir des hausses de salaire. Une première grève a eu lieu cette semaine à Genève.
La grève déjà depuis la fin du mois dernier dans plusieurs raffineries de France. Les salariés exigent 10% d'augmentation entre pénurie de carburant, réquisition et promesses présidentielles que tout rentrera dans l'ordre bientôt. On craque littéralement derrière son volant. À propos de débrayage encore, au Bénin cette fois, Nicolas Sûr, les autorités interdisent le droit de grève dans trois secteurs stratégiques.
Le transport aérien, maritime et les hydrocarbures dont le fonctionnement permanent est jugé indispensable.
En Belgique cette fois, le gouvernement fédéral a bouclé son budget cette semaine. Un exercice marathon, Jacques Crémers, pour tenter de répondre à la crise de l'énergie et à la hausse des prix.
Oui, on a même vu le Premier ministre s'assoupir un bref instant lors de la présentation. Et malgré de nombreuses aides aux entreprises et aux ménages, les critiques ne manquent pas, notamment concernant l'impact sur les soins de santé.
Enfin, au Canada, c'est l'arrivée d'une nouvelle première ministre à la tête de la province de l'Alberta qui a retenu l'attention cette semaine, Benoît Audet.
Daniel Smith a été assermenté au début de la semaine et c'est une déclaration controversée qui a marqué sa première journée au pouvoir.
Et voilà donc pour les titres de cette semaine. La Suisse aussi fait donc face à des menaces de grève. Les syndicats revendiquent des hausses de salaire pour compenser l'inflation. Nadine, le premier mouvement d'ampleur a en fait déjà eu lieu cette semaine à Genève.
Et ce n'était plus arrivé depuis 2014. Les employés des transports publics genevois se sont mis en grève en milieu de semaine. Résultat, une ville paralysée jeudi matin. Plus aucun bus, c'est seulement 7 trams en fonction. Un blocage nécessaire selon cette conductrice de bus.
Lorsque l'on dit notre mal, il n'y a pas d'écoute. Il nous faut des moyens financiers pour faire des choses correctement. Et ils font plus des coupes budgétaires qu'autre chose.
Mais ce débrayage a aussi agacé de nombreux usagers.
Ça me dérange parce que je me mets en retard au travail.
J'ai des rendez-vous à midi et je ne sais pas comment je vais y aller, donc je vais prendre le taxi. Oui, ça m'agace, oui. Parce que c'est des transports publics et puis le mot public me dérange. C'est le public qui en paye les conséquences.
Reste que cette grève a payé. Jeudi après-midi, les employés des transports publics genevois ont obtenu une indexation salariale de 0,6% à partir de janvier.
Oui, et d'autres mouvements par ailleurs sont attendus ces prochaines semaines.
Eh bien oui, les syndicats promettent un automne très chaud. Ils exigent des hausses de salaire pour faire face à l'inflation. Celle-ci se situe autour de 3,3% en Suisse. C'est un des chiffres les plus bas d'Europe. Mais il pousse quand même plusieurs métiers à se mobiliser, comme l'explique Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse.
J'ai senti une vraie détermination et puis une colère dans toute une série de métiers qui sont très exposés, notamment aux horaires atypiques ou à des conditions physiques difficiles, qui ont vécu entre le Covid et puis la canicule cet été des conditions de travail très dures et qui n'ont pas l'impression que les promesses faites à l'époque de revalorisation sont tenus. Donc, il y a un mécontentement dans le monde du travail, c'est évident.
Un mécontentement qui a déjà contraint certains secteurs à augmenter les salaires, par exemple dans la restauration, mais d'autres attendent encore. C'est le cas de la construction. Quelques 20 000 maçons s'apprêtent eux aussi à descendre dans les rues.
Grève aussi en France, donc depuis la fin septembre, déjà dans les raffineries du pays, les autorités ont commencé à réquisitionner des salariés. Le président Macron annonce que tout rentrera dans l'ordre la semaine prochaine, mais en attendant, une bonne partie des pompes sont touchées et la pénurie de carburant est sérieuse partout à travers le pays, Eric Valmire.
Quand il y a pénurie, ces mécaniques ont fait moins attention au prix. À la campagne, les automobilistes sartois s'arrêtent dès qu'ils le peuvent. France Bleu Maine, Bertrand Houchet.
Ici, le gasoil est à plus de 2 euros le litre.
Je suis à sec, malgré le prix. On est obligé de faire pour travailler.
Faire des kilomètres pour trouver peut-être une autre station ouverte, proposant peut-être de meilleurs tarifs, pour ce maçon, ce n'est pas le bon calcul.
Je préfère payer 10 centimes de plus ici qu'aller faire 15 minutes de route et puis attendre encore 15 minutes et ainsi de suite, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas rentable.
Un peu plus loin, sans se poser de questions, Marjorie rejoint la file d'attente au volant de son véhicule utilitaire.
On paye le prix fort, mais pourquoi ? Pour aller au travail ? C'est pas logique. Enfin, de mon sens, c'est pas logique.
Pas vraiment d'autre solution, dit aussi Bruno, qui patiente devant la pompe.
Quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Hein.
Très impactés, les agriculteurs qui sont livrés en gasoil non routier par camion-citerne à la ferme. Dans le pays de Montbéliard, Christophe Beck.
L'exploitation laitière de François Cireza à Matay, 100 hectares de culture pour 150 bêtes, était jusqu'à présent épargnée par la pénurie.
On vient de commander du GNR ce matin. Le fournisseur habituel de l'exploitation nous a répondu pour l'instant, il ne pouvait pas répondre à notre demande.
On se précipite sur la jauge de la cuve de gasoil non routier de la ferme.
Il reste 50 cm dans la cuve, donc ça représente le cas. On s'était plus tellement habitué à la remplir entièrement avec les prix, voilà, parce que ça fluctue tellement que...
La panne sèche n'est pas la bienvenue en cet automne propice aux dernières moissons et aux semis.
Avec tout ce qu'on a vécu, Covid, situation de ce qui se passe en Ukraine, tout ça, voilà.
Au GAEC du Saulsoir à Matay, on espère une solution au conflit et en attendant, une livraison de gasoil non routier.
Pendant les moissons et labours, Olivier, la consommation de carburant, c'est au moins 25 litres à l'heure.
Oui, ça fait beaucoup, évidemment, pour ces agriculteurs. La grève, donc, dans les raffineries en France. Et puis au Bénin, en revanche, Nicolas, les salariés du secteur des hydrocarbures, mais aussi des ports et des aéroports, viennent de perdre leur droit de grève.
Oui, la loi a été votée mardi par un parlement monocolore. Aucun parti d'opposition n'y siège. Aucun n'a pu participer aux dernières législatives. Le pouvoir estime que ces secteurs sont à mobiliser en permanence et invoque un contexte sécuritaire de plus en plus exigeant. Le projet de loi a été annoncé 4 jours après la grève des contrôleurs aériens du Bénin qui a paralysé l'aéroport international de Cotonou. Le président Talon, qui était à l'étranger, n'a pas du tout apprécié. Les syndicats, eux, sont sonnés par la sévérité du texte. Ils promettent des recours devant la Cour constitutionnelle et même l'Organisation internationale du travail.
Oui, et ce ne sont pas les premières restrictions au droit de grève au Bénin.
Non, les hôpitaux, la sécurité et la justice en sont déjà privés depuis 2018. Pour les autres salariés, l'exercice du droit de grève est limité à 2 jours par mois. Une politique assumée sans complexe par le président béninois. Invité cet été à Paris aux universités du MEDEF, le patronat français, Patrice Talon avait vanté un Bénin terre d'investisseurs où les syndicats étaient mis au pas. Cet ancien homme d'affaires, qu'on surnommait le roi du coton, avait reconnu, je le cite, un recul par rapport aux acquis démocratiques, mais quand un pays est à construire, vous avez besoin d'avoir une réglementation forte. Son discours avait recueilli un tonnerre d'applaudissements des patrons français.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En Belgique, à présent, le gouvernement fédéral a bouclé son budget cette semaine. Le Premier ministre l'a présenté mardi devant les députés. C'est un exercice qui n'est pas simple. Le principal objectif, Jacques, c'est d'amortir le choc énergétique.
Alexander De Croo s'est rendu mardi après-midi à la Chambre pour y lire son discours de politique générale. Il a été question de l'Ukraine, que la Belgique n'abandonnera pas, a dit le Premier ministre. Mais ce qui était attendu, c'était surtout les mesures d'aide pour contrer la hausse des prix de l'énergie. Pour les entreprises, le gouvernement propose notamment des réductions d'accises et de réduire les cotisations sociales de 7%. Ceci afin d'amortir la hausse des salaires. Pour les ménages, il prolonge la réduction de la TVA à 6% sur le gaz et l'électricité et des chèques énergie aussi désormais pour celles et ceux qui se chauffent au pellet.
Alors toutes ces mesures ont un prix, il faut donc trouver des recettes et parmi les mesures prises, Jacques, il y en a une qui passe mal, elle concerne les soins de santé.
En effet, le gouvernement fédéral a décidé de réduire la norme de croissance des soins de santé de 2,5%, elle passera à 2% en 2024. Cela veut donc dire que le budget n'accompagnera plus, ne suivra plus l'évolution des besoins. Dans le secteur médical, certains comme cette infirmière se disent qu'il est bien loin le temps où l'on applaudissait les soignants aux fenêtres des habitations pendant la crise sanitaire.
On est déçus parce qu'on voit que finalement... Depuis les applaudissements, il n'y a plus rien. Alors, il y a une pénurie dans les soins de santé, une pénurie des soignants, des infirmiers et même de médecins. Ça ne va que s'aggraver. 0,5%, c'est peut-être pas énorme, mais ça a des conséquences. C'est tout le jeu de domino qui va s'effacer, qui va s'effondrer.
Pour le ministre de la Santé, ce n'est pas une économie. Le budget des soins de santé augmentera simplement moins que prévu, a-t-il précisé. Mais pour une large part du secteur hospitalier, c'est bien une marche en arrière du gouvernement.
Et à propos de gouvernement, on va se quitter aujourd'hui avec une nouvelle première ministre dans la province canadienne de l'Alberta. Danielle Smith a pris la tête de la province pétrolière de l'Ouest cette semaine, après avoir succédé à Jason Kenney, qui a lui-même dû annoncer son départ face à la fronde d'un nombre important de ses députés. Benoît, ce sont d'abord les mesures sanitaires liées à la pandémie qui ont précipité le départ de l'ancien Premier ministre.
Oui, l'Alberta, comme les autres provinces du Canada, a dû se résoudre à imposer des restrictions à ses citoyens au plus fort de la pandémie. Et ces mesures ont fortement déplu à la frange la plus conservatrice du parti au pouvoir en Alberta. La grogne a été si forte que l'ancien Premier ministre Jason Kenney a dû se résoudre à quitter le pouvoir. Les conservateurs albertains ont donc élu Daniel Smith pour le remplacer au terme d'une course à la direction qui a duré quelques mois.
Et la nouvelle première ministre a carrément été portée par cette vague anti-mesures sanitaires.
Oui, en campagne, elle s'est engagée à ne pas imposer de nouvelles restrictions en lien avec la COVID-19. Et au cours de son premier point de presse en tant que première ministre, Daniel Smith est allé jusqu'à déclarer que les gens non vaccinés représentaient le groupe le plus discriminé qu'elle a vu au cours de sa vie. Cette déclaration a créé une véritable controverse. Daniel Smith a dû préciser sa pensée le lendemain. Elle a dit qu'elle ne voulait pas banaliser la discrimination envers des groupes minoritaires au Canada ou ailleurs dans le monde. Quoi qu'il en soit, le ton est donné. En Alberta, la prochaine campagne électorale se profile déjà. Daniel Smith devra faire face aux électeurs en mai prochain.
Benoît Audet à Montréal. Les médias francophones publics vous fixent rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Radio-Canada, la radio-télévision suisse, RFI, France Bleu et la RTBF vous remercient d'avoir été au rendez-vous de l'Accent des autres.